La mélodie qui nous fait enfiler les bottes, mettre le chapeau de paille sur la tête, les gants, et filer dans le potager plante histoire de plante avec Rémi Culic du Jardin des Merveilles de Vaour. Salut Rémi.
Salut, bonjour à tous.
Aujourd'hui Rémi, nous allons parler de la gestion des ravageurs, un sous-chapitre de ton ouvrage, le guide pratique du jardin forêt qui est paru aux éditions Terre Vivante le mois dernier. Et tu consacres toute une partie vraiment sur ce qu'on appelle les ravageurs dans le potager, dans le verger, etc. Bien évidemment, hein, tu parles des limaces et autres ravageurs dans ce bouquin. Je voudrais qu'on aborde cela parce que là, actuellement, il y en a beaucoup là qui nous écoutent et qui sont en train de préparer leur jardin potager et qui doivent prévoir aussi, en tout cas, avoir cela en tête. Est-ce qu'on doit vraiment l'avoir en tête au moment où on prépare une zone de culture, par exemple, les ravageurs?
Ben, complètement, parce qu'ils font partie. Ils font vraiment partie du système. Alors, j'utilise ce mot ravageur parce qu'il parle à tout le monde, mais personnellement, j'aime pas trop le côté. C'est un peu mes chouchous, moi, quand on parle de limaces, de pucerons. J'adore ces bestioles-là. Et les mettre dans la case ravageur, de suite, c'est l'ennemi qu'il faudrait supprimer, alors qu'ils font partie de l'écosystème. Ils sont importants. Si on veut avoir un équilibre et avoir ce qu'on appelle aussi les auxiliaires pour réguler tout ça, si on veut les avoir, ces auxiliaires, il faut que les soi-disant ravageurs soient présents aussi. Donc c'est juste un élément de plus du système. Et bien sûr que quand on lance un potager ou quand on lance des cultures, il faut avoir ça en tête et c'est bien de savoir comment ça fonctionne pour savoir comment s'en protéger un petit peu.
À ceux qui nous écoutent, ils ont l'habitude, hein. C'est pas que tu es un bisounours, mais
si,
tu,
il paraît, ouais.
Tu révèles et reflètes un peu tous les côtés qu'il peut y avoir dans un potager. Je prends le parallèle un peu, c'est lorsqu'on dit mauvaise herbe. Ça aussi, tu l'abordes dans ton bouquin d'ailleurs, en mettant bien le mauvaise herbe entre guillemets pour dire que est-ce que c'est vraiment mauvais. Là, c'est un peu la même chose pour ces soi-disant ravageurs, quoi.
Complètement. Ouais, ça fait un peu partie, même je dirais, de ma ligne éditoriale. C'est un peu mettre en avant les mal-aimés et juste leur donner une place. Quand on dit, alors je le dis aussi souvent, une mauvaise herbe, parce que c'est le terme qui vient
c'est
trop rapidement.
C'est rentrer dans le langage courant.
Et dire plante bio-indicatrice ou plante auxiliaire ou adventice, ça parle pas à grand monde de ces mots-là. Donc quand on dit mauvaise herbe, on sait de quoi on parle. Mais le fait de dire qu'elles sont mauvaises, ça sous-entend qu'on sait pas vraiment en fait à quoi elles servent finalement, à part nous embêter un petit peu au jardin. Alors qu'elles ont tellement d'intérêt à côté, plein de niveaux différents, mais alors si je me lance là-dedans, on change le thème de la chronique.
Mais on va y aller un peu progressivement, mais quand même un peu fort dès le départ, parce que j'ai été surpris de lire en page, attends, je vais essayer de retrouver ça, c'est au moment où tu parles des insectes, et j'ai été assez surpris, et pourtant c'est quelque chose qu'on nous vante, qu'on nous propose à tire-larigot, c'est en page 238, les hôtels à insectes, tu y consacres plusieurs paragraphes, on va dire, pour dire pourquoi est-ce que tu es contre cette fausse bonne idée des hôtels à insectes. Explique-nous.
Ouais, c'est souvent quand j'entends hôtel à insectes, je réagis en disant déjà ça sert à que dalle, mais c'est même pas que ça sert à rien, c'est en plus ça a un contre-effet que j'aime pas du tout. Alors déjà, hôtel à insectes, de quoi on parle? On parle d'un objet qu'on va construire dans lequel on va rassembler plusieurs petites niches. Alors on va faire des cases, le classique, on fait des cases et puis dans chaque case, ça va attirer certains insectes auxiliaires. Moi, j'en ai un chez moi, juste pour le montrer, pour en parler, pour dire que j'aime pas ça aussi. Bon, à l'époque où je l'ai construit, j'aimais bien. Mais en fait, sur cet hôtel insecte, c'est là où on va avoir des araignées qui vont capter tout ce qui va dedans. C'est là où on va avoir des lézards qui se posent dessus, qui attendent que les abeilles arrivent. Ça rassemble tellement tout au même endroit que les prédateurs viennent pour les bouffer. Bon, allez, à la limite, c'est pas très grave. Là où je trouve que c'est dommage, c'est quand on met ça dans un parc dans lequel on va bien tondre l'herbe autour duquel on va mettre tout plein de produits phytosanitaires pour protéger, mais l'hôtel insecte, il est là, il attire un petit peu quand même. Quand on me répond, ouais, mais ça a au moins une vertu pédagogique, en faisant ça, on apprend, mais on apprend quoi? On apprend que en mettant un hôtel insecte au milieu d'un jardin, on peut faire de la merde autour, pardon pour les termes, mais c'est vraiment un truc qui ça me touche, de me dire, c'est pédagogique de faire croire qu'en rassemblant, en attirant plein d'insectes ici, ça suffit. Alors que, à l'opposé, si on avait un jardin dans lequel on va mettre, pas un hôtel, mais plutôt des nichoirs, ou faire des aménagements dans le jardin pour accueillir des insectes, mais un peu partout. Il faut qu'ils soient partout dans le jardin, autour du jardin. Il faut laisser de la végétation sauvage qui va attirer les auxiliaires et qui va nourrir aussi les pucerons. Il faut que ce soit partout dans le jardin. Et de faire croire qu'en rassemblant tout ça dans un hôtel insecte, on peut faire n'importe quoi autour, c'est même pas pédagogique du tout. C'est même contre-pédagogique, je dirais.
Donc, en effet, dans ton bouquin, hein, tu descends bien les hôtels
ouais,
insectes.
Ça m'énerve un peu, ouais.
Tu descends bien les hôtels insectes. Pour parler plutôt d'aménagements végétaux à privilégier, hein, donc pour favoriser une flore sauvage et diversifiée, il faut planter des haies, des bandes enherbées. Il faut aussi prévoir des zones un peu tranquilles où les animaux, les insectes et tout ça peuvent être tranquilles. Il faut entasser des tas de bois aussi à certains endroits.
Alors voilà, c'est ça. Alors, les végétaux, oui, garder la végétation local et endémique, et surtout local, c'est bien. Et après, il y a tous les aménagements. Si, alors je reviens sur ce satané hôtel insecte, si on pense que mettre trois petits cailloux dans une case d'un truc en bois, ça va suffire pour héberger les coccinelles, alors, il y en a peut-être deux, trois qui vont se mettre dedans, mais si elles se font pas bouffer par le lézard en passant. Mais voilà, par contre, faire un gros tas de pierres dans un coin, ou quand on fait des murs en pierre, faire des murs en pierre sèche ou garder quelques recoins entre les pierres sans mettre de liant, de ciment pour qu'elles puissent aller là-dedans, c'est beaucoup mieux. Des tas de bois, des tas de terre à nu, des tas de sable, tout ça, ça va pouvoir attirer pas mal de choses. Et il y a un autre truc, mais que je sais même pas si je le dis dans le livre, tellement pour moi c'est... ça, bien sûr, c'est naturel. On met pas de produits phytosanitaires, pas d'insecticides, pas d'herbicides, pas de fongicides, pas tous ces trucs en ci-de-là qui tuent la vie. Déjà, ça, on oublie. Et on favorise les aménagements naturels, les aménagements et la flore locale. Et là, voilà, les auxiliaires, les soi-disant ravageurs, ils seront là naturellement et tout le temps. Et surtout, il faut qu'ils soient là tout le temps. Et il faut qu'on change la vision qu'on a d'eux. C'est voir des pucerons et se dire, aïe, 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 il y a un risque. Moi, quand je vois des pucerons, je me dis rien du tout. Déjà, je m'arrête, je regarde, j'observe, je trouve ça magnifique. Et je me dis, waouh, cool, mes coccinelles, c'est bon, elles peuvent se réveiller, il y a à manger.
Tu nous parles aussi, même si c'est un peu, on va dire, en contradiction d'une certaine manière avec l'une de nos dernières chroniques, hein, qui parlait plutôt du manque d'eau, du peu de pluviométrie que l'on a. Tu nous parles des mares, voilà, qu'il faut installer aussi des mares. Ça aussi, c'est important d'en avoir une à proximité ou en tout cas dans son potager.
Ouais, au moins une. Ouais, je dirais même plusieurs, à plusieurs endroits différents. Mais c'est même la première question moi, qui me vient quand il y a des gens qui me disent « moi, j'ai des problèmes de limaces chez moi ». Ah, est-ce que t'as une mare? Et souvent, les gens qui ont des gros problèmes de limaces n'ont pas de mare chez eux. Les limaces, on peut faire ce qu'on veut, elles sont là, elles font partie du système, elles seront toujours là. Par contre, le fait de mettre une mare, ça va attirer plein de bestioles, notamment des crapauds qui sont des gros mangeurs de limaces. En mettant un tas de bois dans un coin, ça va attirer les hérissons qui sont aussi des gros mangeurs de limaces. Mais la mare, ça va être un des aménagements qui va attirer le plus de biodiversité, qui va en plus faire évoluer un peu le microclimat local. Et puis, c'est une zone d'observation qui est géniale. En plus d'être un bisounours, je crois que je suis un enfant qui n'a pas fini de grandir. Et j'adore m'asseoir à côté de mes mares et observer tout ce qui s'y passe. C'est passionnant.
Et comme toi, tu aimes tout le monde, tu aimes même les moustiques. Et là, je crois qu'on va divorcer là. Bon, on avait déjà divorcé un peu avec les limaces, mais tu m'as aidé à comprendre l'histoire, donc je suis revenu dessus. Essaye maintenant de ma coquine avec les moustiques. Tu en parles d'ailleurs, tu consacres un paragraphe à ça, hein, aux moustiques dans ton ouvrage. Rends-moi ami avec les moustiques, parce que là je comprends pas, là, parce que les mares vont attirer les moustiques.
Ouais, je sais pas si je pourrais te faire ami en te disant t'as pas le choix, en fait, c'est vraiment ça, c'est la notion de chaîne alimentaire, c'est une bestiole en mange une autre et se fait manger par une autre. Donc pour que tout puisse être présent dans le jardin, il faut qu'il y ait tous les maillons de la chaîne alimentaire. Et le moustique, c'est un peu la base. Si on fait une mare, c'est quasiment le premier qui va arriver, ça sera le moustique. S'il y a des grenouilles pas loin, elles vont y venir, mais les moustiques, ils vont venir pondre, et les larves de moustiques nourrissent plein de bestioles dans la mare. Les moustiques adultes nourrissent plein de bestioles autour de la mare, les chauves-souris notamment, il y a plein de... Alors peut-être que, je sais pas si t'aimes les chauves-souris, si t'aimes pas les chauves-souris, ça va pas aider
non
plus.
Un peu plus que les moustiques en tout cas.
Ouais. Elles sont pas méchantes. Mais ouais, ça fait partie du système, plusieurs fois je le répète, mais tous les maillons sont importants, et si on supprime surtout les maillons de base les plus importants, ben on n'aura pas tout le reste et le système se casse la gueule. Donc je sais que c'est pas forcément en disant ça que tu vas les aimer plus, mais en vrai, t'as pas vraiment le choix, en fait. Au moins de les aimer, mais au moins les accepter. Par contre, si, alors peut-être ça pourrait te faire changer le truc, mais si t'as suffisamment de mares et avec suffisamment de biodiversité autour, t'auras pas de pullulation de moustiques. En ayant un peu partout, t'en auras pas tant que ça. Par contre, s'il y a pas de biodiversité, qu'il y a pas de mares dans ton jardin, mais que t'as un seau que t'as oublié quelque part et qu'on a la chance d'avoir un peu de pluie et que ce seau se remplit d'eau, tu vas avoir des moustiques de partout parce que la biodiversité ne va pas les réguler. Donc en favorisant, en mettant des mares et en favorisant un peu le moustique, un peu partout, tout le temps, finalement, tu en auras moins, pas tant que ça finalement. Les gens qui s'inquiètent de « ah si je mets une mare, il y aura des moustiques », Non, c'est, il faut tester et vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça si on a des mares un peu partout. Des abris pour les chauves-souris, des abris pour la faune globalement. S'il n'y a pas de pullulation, j'aime bien répéter, c'est l'humain a inventé la pullulation dans la nature, ça ne pullule pas. Il y a peut-être des pics de développement, ça c'est un peu ce que j'explique aussi dans le livre. Le pic de développement d'une espèce est toujours suivi du pic de développement de l'espèce qui la consomme. Donc si on a de tout, on n'aura jamais trop d'une espèce. Et ça marche pour les moustiques.
Tout est une question d'équilibre, hein, une question d'équilibre entre les choses. Pour se protéger aussi des ravageurs, on peut parler des jeunes arbres qu'il faut protéger avec un grillage, avec je sais plus comment ça s'appelle, là, ces protections individuelles.
Des voies anti-insectes,
pour les
chevreuils qui vont manger les troncs.
Pour les chevreuils plutôt, ouais. ce genre de choses. On va aussi quand même finir avec une expérience que tu as menée, mais je crois que c'est mené dans différents pays, mais c'est l'expérience vaoraise qui va nous aider. Intéressé, c'est celle de l'urine diluée. Tu t'y es prêté au jeu. Et qu'est-ce que tu as constaté? Déjà, alors, qu'est-ce que tu as fait avec
J'adore
l'urine
me prêter
diluée.
À ce genre de jeu-là en me disant que déjà, j'aime pas aller acheter des produits ailleurs. Je vais pas aller acheter un engrais. Par contre, on en produit tout le temps. Et surtout, on en produit tout le temps et on va aider à autre chose. Si on va tout le temps faire ça dans des toilettes et qu'on tire la chasse à chaque fois qu'on a un petit pipi à faire, les stations d'épuration elles finissent par en être saturées. Et on se débarrasse d'une partie de la fertilité qu'on crée tous les jours, donc quel dommage. Donc oui, je l'ai testé pour deux choses l'urine. Première chose classique, enfin logique, c'est de l'engrais en diluant 10%, faut surtout pas mettre trop parce que c'est très très fort. 10%, c'est un engrais naturel, on peut arroser nos légumes, on peut arroser plein de choses avec. L'autre chose, l'autre usage de l'urine, c'est l'odeur qu'elle apporte. Tout le monde n'aime pas forcément cette odeur, et notamment pas mal de ravageurs, les chevreuils, les souris, il y a beaucoup de bestioles qui n'aiment pas ça. Et si on a des semis qu'on va faire ou des plantations qu'on va faire et qu'on a peur de se faire bouffer ça par les semis, c'est les souris ou les rongeurs qui vont bouffer les graines, ou les choux, il y a des limaces qui vont les bouffer, les chevreuils, il y a les troncs des arbres qui en souffrent un petit peu, et bien, en arrosant avec de l'urine certaines zones, on va limiter un peu les ravageurs. J'ai fait des tests sur des zones de semis arrosées à l'eau et arrosées à l'urine. Dilué, les tournesols ou toutes les petites plantes que j'ai pu mettre en terre et qui se font défoncer par les oiseaux et les souris normalement, ceux arrosés à l'urine sont moins sensibles.
D'accord.
Donc voilà, il y a plein de façons d'utiliser et puis on pourrait encore travailler le truc de plein de façons différentes. C'est un beau terrain de jeu en fait de faire tout ça. Pour faire la paix après avec l'urine, hein, on pourrait parler de toilettes sèches, utiliser notre urine, utiliser nos excréments. C'est moi quand je parle de ça dans mes vidéos, ça m'arrive souvent d'avoir des commentaires de gens qui me disent mais arrêtez de parler pipi caca dans vos vidéos. Pardon, on va peut-être utiliser d'autres mots, mais c'est des matières que je connais pas un seul humain qui n'en produise pas et tous les jours. Donc faire la paix avec l'urine, je sais pas si comment ça pourrait être interprété, mais en tout cas l'utiliser, ça aurait tellement d'intérêt qu'il faut l'utiliser.
Ah ben ça c'est complètement évident. On se met déjà à parler des méthaniseurs là, que ce soit pour les grosses fermes, mais lorsqu'il s'agit de nous là, on n'essaye pas vraiment. En fait, on a le droit d'épandre tout ce qui sort des fermes, même les plus dégueulasses, qui utilisent des produits, on sait même pas d'où ça provient. Ça, ils ont le droit d'épandre. Par contre, notre caca, notre pipi, non, ça c'est interdit d'épandre. Il me semble d'ailleurs.
Et, alors ça, je sais pas au niveau interdiction à ce niveau-là, mais en tout cas au niveau des jardins des particuliers.
Non, chez les particuliers, non, mais
dans les grandes cultures, ça a été expérimenté. Après, ça ne veut pas dire que c'est autorisé de le faire, mais en tout cas, il y en a qui le testent parce que c'est une solution qui est énorme. Alors, j'ai lu un bouquin, moi, et le titre du bouquin, c'est Merde, 3 points de suspension, et qui parle de, dans les différentes cultures, comment c'est utilisé. Je crois que ça a été fait en France, mais la partie de ce livre qui en parle, c'est sur la Chine. Il y avait une personne dont le métier, c'était avec sa charrette, de faire les allers-retours entre les zones de culture autour des villes et les villes. Dans les zones de culture, il allait récupérer sa quantité de légumes, de production agricole, les amener dans le village et échanger ça contre les excréments de la ville, les excréments des habitants. Et ces excréments, il allait les amener dans les zones de culture pour fertiliser. Et du coup, lui, son rôle, c'était d'aller récupérer le fertilisant et de l'échanger contre les productions agricoles. Et de faire ses allers-retours comme ça. Donc, c'est une des solutions. alors pas la solution, mais en tout cas c'est une des grosses solutions pour aider le monde agricole, ça c'est certain.
Bon, on a dévié sur l'engraissement finalement des sols ou des plantes. On a commencé par parler des ravageurs auxquels on peut faire attention là dès maintenant lorsqu'on est en train de préparer ces zones de culture. Si vous avez pris la chronique en cours de route, hein, vous pouvez la réécouter, elle est en podcast sur cfmradio.fr et vous pouvez en profiter pour écouter toutes les autres qui vous donnent pas mal de conseils sur le jardinage écologique, le potager, l'agroforesterie aussi, la permaculture. On parle de tout et de rien, parfois aussi avec Rémi Kulik, parce que c'est ça aussi la permaculture, c'est d'échanger avec tout le monde sur différents sujets. Et on a toujours plaisir à le faire, hein, dans Plante, Histoire de Plante avec Rémi Kulik.
Et du jardin, tout est lié.
Merveilleux, ouais, et on voit que tout est lié. On commence à parler de ravageurs, on se retrouve à parler du pipi et de caca, comme quoi, hein, tout est vraiment lié sur cette terre, chers amis. Bien Rémi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, pour continuer à deviser de choses et d'autres en lien avec le sol. En tout cas, on commence à parler de potager, de sol, de plantes, et puis on voit bien où est-ce que ça nous amène, parce que la vie est ainsi faite. Salut Rémi.
À bientôt, merci.